Bonjour, bienvenue sur RTM 33, bienvenue sur la radio et d'assister à la dernière émission de la saison avec Sophie Cerullo. Sophie, vous êtes en contact avec moi par Skype, est-ce que vous m'entendez bien?
Très mal. Et vous?
Ça commence pas bien. Moi, je vous entends super bien.
Bon.
Et je vous vois très bien également, vous me voyez?
Oui. Bon. Et là, je vous entends mieux, mais pas terrible.
Bon, bah écoutez, je fais mon max.
Bon, écoutez, on va y arriver.
Ouais, c'était un peu le sketch. Bon, écoutez, ravie de vous avoir, pas au bout du fil, mais en visio, là, pour cette émission. Donc, je présente à mes auditeurs, vous êtes Sophie Cerullo, et vous êtes actuellement en Algarve, c'est-à-dire au Portugal. Et on va un petit peu, passer en revue votre parcours, et vous allez un petit peu nous raconter ce qui vous a mené au Portugal. Mais au début, on va commencer par le commencement. Vous êtes donc une jeune femme du Sud-Ouest, hein, c'est ça?
C'est ça, je suis née à Arcachon pour être précise. Donc oui, pur Sud-Ouest.
Voilà, et puis je crois que vous avez un parcours qui est assez étonnant. On parle de cette émission qui s'appelle « Mille et une vies ». Je parlais de « Mille et un métiers »,« Mille et une activités ». Vous avez été prof de lettres, Sophie?
Oui.
Il y a là quelques années.
Oui.
Racontez-nous un petit peu cette passion pour la littérature, pour les lettres.
Alors, la passion de la littérature, je l'ai toujours eue, je crois. En fait, j'ai beaucoup lu avec une maman institutrice, donc du coup, qui m'a donné le goût des livres, donc que j'ai gardé, que j'ai cultivé après. Donc, j'ai fait des études littéraires, ça me paraissait une évidence. Et en évidence aussi, après les études de lettres, je suis devenue prof. Voilà, en région parisienne, parce que du coup, j'ai quitté une première fois mon Sud-Ouest natal. Et donc, je suis restée dans l'éducation nationale une dizaine d'années. Voilà.
Et l'expérience s'est arrêtée là?
Oui, parce que en fait, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais à un moment donné, je me suis sentie, je trouvais que l'administration, enfin voilà, l'établissement dans lequel j'étais donnait pas forcément beaucoup de facilité aux profs, et du coup, c'est tombé à un moment donné où je me suis posé la question de savoir si j'allais faire ça toute ma vie. Et là, une évidence aussi m'est apparue, et comme en même temps, j'ai avec ce goût de la littérature, j'avais le goût de l'écriture, je suis partie exercer le métier de conceptrice-rédactrice après une nouvelle formation en agence de pub.
D'accord, donc nouvelle expérience là, enrichissante, qui va durer combien de temps?
La pub
là, actuellement, vous êtes sur Paris, c'est ça, à ce moment-là?
Oui, à ce moment-là, je suis toujours en région parisienne, donc sur Paris, effectivement. Donc, j'ai commencé chez Publicis consultant, j'ai fait beaucoup de conseils. Et ensuite, je suis partie en agence plus petite jusqu'à assez rapidement, finalement, au bout de 4-5 ans, monter ma propre structure pour pouvoir notamment travailler aussi un peu à distance d'où je voulais, en étant moins... En fait, je me rends compte maintenant, en vous parlant, que qui a toujours un petit peu jalonné mon parcours, c'est cette envie de liberté quelque part. En fait, j'ai beaucoup de mal au bout d'un moment quand je suis dans une structure très plus ou moins fermée. J'ai envie de m'en échapper, en fait.
On pourrait dire de vous que vous êtes une femme indépendante.
Oui, je crois que ça peut me définir assez bien, oui.
Alors donc après ce parcours parisien dans la com, donc cette agence créée, vous décidez de bouger, enfin vous arrivez justement, vous revenez dans le Sud-Ouest.
C'est ça.
Pour y passer quelques années et pour poursuivre votre activité.
C'est ça. En fait, j'ai fait un burn-out, ce qui à l'époque était moins courant, mais voilà, qui aujourd'hui, c'était il y a un peu plus de 10 ans. J'ai fait un burn-out et puis avec mon compagnon, on s'est posé la question de savoir si on allait rester sur Paris, et comme on avait tous les deux l'envie de finalement de de ralentir un peu, de voilà, de
d'être dans le flow.
C'est ça. C'est ça, dans le flow, dans le slow aussi. Donc vraiment de ralentir. Moi, il fallait que voilà, je récupère. Et donc on a choisi de le sud-ouest et donc moi un retour aux sources et pour lui une découverte. Voilà, avec l'envie de soleil, de plage, de pain, de voilà. Et donc on a comme on était indépendants tous les deux, on a continué notre activité à la Cano en fait.
Donc, bel endroit.
Ouais, magnifique. Donc, oui, vous connaissez bien.
Alors, à la Cano, oui, on va dire ça. Alors, je disais donc une passion pour le sud-ouest, mais pas seulement, puisque vous êtes une jeune femme et vous êtes une jeune femme passionnée de rugby. Donc là, justement, vous allez pouvoir un peu allier les deux. Le lieu, la passion.
C'est ça.
Et je
c'est ça.
Vous raconter un peu.
C'est ça, et à ce moment-là, donc effectivement, l'envie d'écrire un livre, donc ça a commencé comme ça, je pense, bon, suite au départ de mon père, en fait, voilà, l'envie de d'écrire des choses sur le rugby, et donc j'ai publié mon premier livre aux éditions du Rocher, donc c'était en fait une interrogation sur l'évolution du rugby.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
RTM, c'est l'été.
RTM.
Revenu, je crois qu'on est revenu, Sophie, en fait, en direct.
Oui.
Vous m'entendez?
Oui,
bon,
j'ai l'impression.
Émission, hein, voilà, une émission un petit peu expérimentale, la dernière de la saison,
oui,
en
c'est
lien
ça.
Avec
c'est
le Portugal, Sophie.
Juste avant les vacances.
Et, c'est ça, le dernier effort. On ne parle pas d'effort, mais là, c'est vrai que la technique nous joue quand même des tours. Bon, alors, on était sur ces passions, le sud-ouest,
ouais, et le rugby,
qui voilà, se rejoignent. Le départ de papa, l'envie d'écrire.
C'est ça, la parution donc, du premier livre, et puis ensuite la collaboration à d'autres, et la création donc, de Flair Play, un magazine qui se voulait innovant, en croisant des regards hors du terrain, avec un peu de philo, un peu de culture, un peu de sociaux, enfin voilà, tout ça mélangé, qu'on a porté à bout de bras pendant un peu plus de 2 ans. Voilà.
D'accord, donc toutes les choses finalement qui vous intéressaient, pour lesquelles vous aviez de l'intérêt, toutes ces rubriques, c'était des rubriques qui étaient écrites par vous ?
Alors non, heureusement, il y avait... Non, j'aurais pas pu, c'est comme c'était un bimestriel de surcroît. Non, j'ai trouvé donc un philosophe qui était aussi passionné de rugby, qui a bien voulu m'aider à co-créer, à sortir le bébé, quelque part. Donc il y avait aussi mon compagnon pour toute la direction artistique. Et ensuite, on a composé une équipe de journalistes et de rédacteurs qui nous ont aidés à sortir un numéro tous les 2 mois. Donc on était à peu près une quinzaine. On avait aussi des photographes qui parce qu'en fait l'idée c'était aussi d'avoir des photos vraiment spécifiques des personnes que l'on rencontrait et pas aller acheter des photos déjà d'image banque. Donc c'était une vraie équipe. Donc j'ai chapeauté aussi pendant ces 2 années et demie. Donc gros boulot, belle passion, on est fiers de ce qu'on a fait. Après les difficultés quand on est un tout petit éditeur dans avec le système de distribution très compliqué, donc on a préféré arrêter, mais c'est un projet qui nous a animés pendant plus de 2 ans,
avec la rencontre également de rugbymen.
Oui, c'était effectivement à la fois, donc on a rencontré ce que je disais, des sociologues, des philosophes, on a eu Edgar Morin, on a eu Berléand aussi en acteur, enfin vraiment on a essayé d'ouvrir, en fait l'idée c'était de faire parler du rugby des gens qui étaient pas du milieu, et les joueurs, les entraîneurs, les filles aussi, parce que la revue était volontairement mixte et donnait aussi la parole aux filles. Donc les joueuses et les joueurs, les entraîneurs, leur faire parler d'autre chose que de rugby. Voilà, c'était un peu l'idée, et de découvrir que finalement derrière ces mecs qu'on voit tous les week-ends sur un terrain en short et crampons, c'était des hommes ou des femmes qui avaient des vies, des passions, et qui avaient plaisir à nous les raconter.
Donc l'aventure de ce magazine, vous le disiez, de par les difficultés d'être une petite structure, va durer un certain temps, mais aujourd'hui n'existe plus, c'est ça ?
Non, c'est ça, elle n'existe plus. On a arrêté en 2018. Non, 2018-2019. Et suite à l'arrêt du magazine, en fait, j'ai eu envie, parce que ça a été vraiment un arrêt triste, vraiment.
Brutal, un peu.
Oui, brutal, on le sentait venir, mais à un moment donné, j'y travaillais, bénévolement, donc oui, il fallait aussi, à un moment donné, je travaillais à côté. Donc à un moment donné, il a fallu prendre cette décision, et du coup, j'ai pour retrouver du sens finalement à ce que je faisais. Je crois que ce projet au Portugal est venu pour retrouver un nouveau souffle, en fait, après ce projet qu'on aurait bien aimé voir poursuivre, et qui a dû s'arrêter.
Donc aujourd'hui, vous êtes en direct du Portugal.
C'est
non
ça.
Loin de la ville de Faro, c'est bien ça ?
Exactement.
Et du coup, vous êtes arrivée au Portugal depuis combien de temps maintenant ?
Ça fait un peu plus d'un an. C'était au mois d'avril l'an dernier. Donc ça fait plus d'un an. Ouais.
Alors, quand on s'expatrie comme ça, est-ce que l'arrivée dans un autre pays, le fait de prendre d'autres repères, de s'intégrer à la population, etc., est-ce que c'est compliqué au final ?
Pour moi, ça ne l'a pas été, en fait. Moi, je me sens pas... Et ce mot expatrié m'a beaucoup... En fait, je l'utilise jamais parce que je me sens pas appartenir à une patrie. Je me suis jamais sentie appartenir à un pays en particulier. Peut-être en raison de mes racines, espagnoles, j'en sais rien. Enfin, en tous les cas, je... Donc, pour moi, je suis juste partie vivre dans un autre pays. Et je crois que quand on a cette ouverture-là et cette envie vraiment de vivre autre chose ailleurs, dans une autre culture, apprendre une autre langue, bah, finalement, l'intégration, elle se fait extrêmement facilement. Enfin, en tous les cas, pour nous, elle se fait vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, dans une certaine forme de facilité, finalement.
Mmh. Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs pays, c'est-à-dire le Portugal et puis peut-être l'Espagne ? Alors, vous parlez d'Espagne tout à l'heure.
Oui, au départ, on était plutôt parti sur l'Espagne, effectivement. Et puis, moi, j'avais souvenir vraiment, je connaissais très bien le Portugal. Et j'avais vraiment souvenir d'un pays qui a un supplément d'âme, je trouve, au niveau notamment de la gentillesse des Portugais. Alors ça fait un peu cliché hein, de dire ça, mais vraiment moi j'avais été séduite par cet état d'esprit en fait que je n'ai retrouvé que là-bas. Et du coup on y est retourné. Olivier ne connaissait pas, donc mon compagnon ne connaissait pas, et on s'est dit oui, c'est là qu'on doit être, aussi presque une évidence. Voilà, donc les choses se sont faites. Oui, j'ai parlé l'autre tout à l'heure d'évidence pour ce que j'avais déjà fait, mais là le pays s'est imposé aussi comme une évidence, voilà, et l'Algarve particulièrement.
Et au bout d'un an, vous avez tissé des liens, rencontré, lié amitié aussi avec des Portugais?
Oui, français, parce qu'on a la chance d'avoir des voisins français adorables avec qui on s'est lié. Elle d'ailleurs, c'est Sophie Dudemaine, elle est connue en France, elle a écrit 35 livres sur de recettes de cuisine, elle a animé des émissions télé, etc. Enfin, donc c'est quelqu'un de très connu, enfin on le savait pas, hein, mais que c'était nos voisins. Mais voilà, donc on est très amis, on s'est vraiment liés d'amitié avec eux, puis avec d'autres, en prenant des cours de portugais, on a aussi rencontré d'autres personnes. Et puis les Portugais sont accueillants, donc en fait on a aussi des connaissances et des copains portugais, donc on est vraiment, on baigne en fait entre les deux cultures, les deux langues, voilà.
Alors du coup le portugais c'est easy maintenant pour vous ? Vous commencez à bien maîtriser ?
Non. Je dirais pas que c'est easy, mais ça fait 6 mois, on commence quand même à se débrouiller. À l'écrit, moi en plus avec le projet que j'ai créé, voilà, je suis aussi beaucoup en contact avec des Portugais, donc j'arrive à l'écrire, à le lire. Mais c'est vrai qu'à l'oral, il y a un accent qui est particulier, et notamment en Algarve, et voilà, on a encore à l'oral, on n'est pas du tout voilà, c'est pas du tout évident, mais on s'en sort, voilà, et on, voilà. Et puis, on mesure les progrès qu'on a fait depuis le début, on comprenait mais pas un mot du tout. Et par contre, ce qui nous a aidé aussi à ce niveau là c'est que beaucoup de Portugais parlent un petit peu français, donc ils sont très aidants à ce niveau là et en fait on jongle entre le portugais, l'anglais, le français, voilà.
Polyglotte.
C'est ça.
Bon, mais super. Alors justement, revenons sur cette période un peu fâcheuse là qui a touché pas mal de pays au niveau mondial. Ce fameux coronavirus, ça a été une période de pause, on va dire, dans la vie de beaucoup de gens. Vous, ça a été un moment justement dont vous avez profité pour comment dire, éveiller votre partie créative, et puis vous avez eu l'idée de créer un nouveau projet.
Oui, en fait, moi j'ai vécu ce coronavirus comme une parenthèse en fait. Donc j'ai pratiqué encore plus le yoga, j'ai encore pratiqué encore plus la méditation. Voilà, je me suis vraiment posée et à ce moment-là, j'ai eu à faire aussi. En fait, j'ai appelé des producteurs locaux qui se sont organisés pour livrer les fruits, les légumes, etc. Et là, j'ai vraiment mesuré à quel point tous les petits producteurs, les artisans, qui font aussi la beauté et la richesse d'un pays ou d'une région, étaient importants. Et donc, parallèlement à ça, j'ai en tant que expatriée entre guillemets, enfin en tous les cas personne qui vit dans un autre pays, je me suis rendu compte que c'était souvent pas évident d'avoir les bonnes adresses, de connaître les bons professionnels, de voilà. Et en mettant les deux ensemble, m'est venue l'idée de créer une plateforme en fait de rencontre entre le petit commerce local, les producteurs locaux, les artisans et le consommateur. Voilà, pour leur une sorte de vitrine en fait qui présente des personnes qui proposent de bons produits, de beaux produits, voilà.
D'accord, donc ça y est, ça a démarré.
Oui, ça a démarré il y a un mois à peu près. Donc, on a créé la plateforme. Donc, il y a une page Facebook aussi qui existe. Donc, ça s'appelle Ekenja, qui veut dire en portugais, c'est du gâteau. C'était en fait l'idée de dire, vous voulez trouver un producteur qui produit de bons légumes, un artisan qui fabrique de belles choses, un professionnel qui offre de bons services. Avec notre plateforme, c'est facile, c'est du gâteau. Voilà, donc ça existe depuis donc un mois, ce que je viens de dire.
Et on pourrait peut-être, Sophie, vous m'entendez, on pourrait peut-être préciser l'orthographe parce que vous avez parlé avec un joli accent, mais Ekenja, c'est à l'accent aigu,
C-A-N-J-A. C-A-N-J-A, c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà.
Et donc pour ceux qui veulent se renseigner sur Facebook.
Voilà, donc ça peut aussi s'adresser aux Français qui viennent passer des vacances en Algarve, s'ils veulent trouver des bonnes adresses. Alors on commence, on est tout petit, hein. Même chose, pour l'instant le projet grandit vraiment pas à pas, donc moi je vais découvrir de nouveau, il y en a qui viennent vers moi, enfin voilà, donc la mécanique se met en place petit à petit. Et l'idée à terme, c'est d'aller chercher auprès des mairies ou des offices de tourisme, peut-être des financements pour permettre justement à ces producteurs artisans de figurer sur la plateforme voilà, et d'être pris en charge par les institutions qui sont ici vraiment très très sensibles au Made in Portugal. Vraiment, c'est un pays qui est vraiment très très attaché et qui en plus peut quasiment vivre en autosuffisance parce qu'on trouve tout en fait.
Quand vous démarchez justement les agriculteurs, les gens qui sont autour de vous, vous les prévenez, vous envisagez à chaque fois de goûter leurs produits. Comment ça se passe concrètement pour proposer à quelqu'un de faire partie du réseau Ekenja?
En fait, je les choisis, je les appelle. Alors, quand je peux, je vais goûter ou voir leurs produits. Et quand je ne peux pas, pour X raisons, surtout qu'au début, on a commencé le projet, on était encore en confinement, donc c'était pas évident de pouvoir, c'était même déconseillé de sortir. Et ici, les Portugais ont été très, très, très disciplinés sur les consignes à respecter. Donc, quand je peux, j'y vais, je les rencontre, je goûte. Sinon, ça se fait vraiment par téléphone ou par le web. Et ce sont en général, ils respectent en tous les cas des critères que l'on a fixés, notamment au niveau de la qualité des produits, du bio, de leur approvisionnement. Il faut vraiment que ce soit fabriqué ici. Enfin voilà, il y a des critères vraiment à respecter.
Aujourd'hui, combien de personnes sont dans ce réseau et vous envisagez dans l'inclure jusqu'à combien ?
pour l'instant, on est, je crois, sur une quinzaine, je crois, en ligne. On en a d'autres en attente, voilà, qui vont sortir. Je vais en découvrir d'autres encore la semaine prochaine. Donc, l'objectif, c'est d'arriver très vite à peu près à 25-30. Et là, du coup, on va passer au stade supérieur, c'est-à-dire que je vais contacter les médias, etc. Donc, en fait, voilà... L'idée étant d'arriver, je sais pas moi, peut-être une cinquantaine de chats ou une centaine, j'en sais rien, j'ai aucune idée. On n'a pas raisonné en fait dans ces termes, on a raisonné surtout dans un premier temps en termes de qualité, de qualitatif, voilà, d'offres vraiment qualitatives qu'on veut proposer. Et après, je pense que voilà, les choses vont grandir petit à petit, mais c'est vrai que au jour le jour, en fait, ça progresse, on avance au jour le jour, mais on est trois hein, pour l'instant à s'en occuper, donc voilà, ça va, on y va progressivement. Voilà, c'est ça.
Donc vous travaillez actuellement sur ce projet, mais je crois que vous avez un autre projet à titre plus personnel pour la suite, c'est d'ouvrir un bed and breakfast, c'est ça?
C'est ça, c'est en fait pour ça même qu'on est venu ici. On avait vraiment envie, on avait déjà tenté l'aventure à la Cano, avec une partie de la maison, on avait testé pour voir si ça nous plaisait, et en fait on a passé un été vraiment à retrouver du sens à ce qu'on faisait, justement en accueillant des personnes à la maison. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Puis bon, le projet prend un petit peu de temps, il a un petit peu de retard à l'allumage, mais on ne le perd pas de vue. Effectivement, il devrait, je pense que d'ici la fin de l'année, on croise les doigts, on devrait pouvoir ouvrir ses portes. Voilà.
Alors, depuis un an, vous êtes donc en Algarve. Quel regard vous portez sur ce parcours, sur cette année écoulée, par rapport à vous, à votre épanouissement?
Ben moi, je tous les jours, je me dis qu'on a fait le bon choix. C'est-à-dire que la vie qu'on a ici correspond vraiment à ce dont j'ai envie et besoin maintenant. Le parcours, après, moi, je me sens toujours sur le chemin et en chemin. Donc, c'est toujours difficile pour moi de faire des bilans comme ça. Surtout que, finalement, tout est à créer. On est en train de créer, en fait. On est vraiment... On est sur le début de nouvelles aventures, on va dire. Donc, ravie d'être ici. Notre intégration se passe super bien. Voilà, maintenant les projets sont en gestation, on a planté des graines et voilà, on les arrose tous les jours et voilà, on les regarde pousser, voilà, exactement, c'est exactement ça.
Bon alors, pour nous faire un petit peu envie et nous donner un avant-goût des vacances, vous pouvez me raconter un petit peu la température qu'il fait chez vous et le ciel, le soleil est présent ou pas aujourd'hui?
Oui, là on est reparti vraiment, en fait l'Algarve... vent, 300 jours de soleil par an, je crois qu'à quelques jours près, on y est. Et là, on est vraiment parti sur la saison où le ciel est bleu tout le temps et on doit être à 32, 33 aujourd'hui. Mais on est vraiment surtout sur du ciel bleu et on est parti pour comme ça, je pense en principe, si c'est comme l'année dernière, jusqu'à fin novembre.
Bon, mais en tout cas, ça donne envie.
Ouais.
Cette région.
Bah, il faudra venir nous voir.
Voilà, c'est ça. On va approcher ça. Et puis, écoutez, j'ai été ravie de vous avoir en ligne. Ça a été un peu compliqué au départ, mais bon, on y est arrivé. Ouais. C'est la dernière émission de la saison. Donc, merci d'avoir fini la saison 2, comme je dis, avec moi.
Avec grand plaisir. Passez de belles vacances.
Voilà, et puis tous ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite à vous aussi d'excellentes vacances, profitez-en bien, et puis on se retrouve en septembre pour de nouveaux invités et de nouvelles aventures, d'invités encore avec des parcours extraordinaires. Sophie, je vous embrasse.
Moi aussi, Emmanuel, à bientôt.
Et puis à bientôt, et puis bon vent.
Merci, à vous aussi, au revoir.